Bonsoir, bienvenue dans cette édition de Cuisine de la Presse qui vous propose trois thèmes à savoir, signature mardi dernier à Kinshasa, des actes d'engagement de la majorité présidentielle MP en sigle. Ensuite, le bureau de la Commission électorale nationale indépendante CENI consulte depuis le début de la semaine les chefs de partis politiques. Et enfin, le professeur de certaines institutions universitaires, Preston Minikin, Nikon Lipacic, observe un arrêt de travail depuis lundi dernier. Trois confrères journalistes sont associés à ce débat. Il s'agit de Joachim Diana, il est directeur de publication du journal L'Avenir. C'est un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. Bonsoir Joachim Diana.
Bonsoir.
Ambroise Mamba, il est journaliste à Congo Web. C'est une télévision qui est née depuis Kinshasa. Bonsoir Ambroise Mamba.
Bonsoir Guy.
Et Baba Isaac Kalonji, il est journaliste analyste indépendant en Bougima et au Passage Oriental. Bonsoir Baba Isaac Kalonji.
Bonsoir confrère.
Signature de l'acte d'engagement de la MP, le bureau de la CENI consulte ainsi que arrêt de travail dans certaines universités. Comment la presse a traité ces différents thèmes? On écoute cette revue de presse que nous présente Samuel Kachak.
Bonsoir. Les journaux parus cette semaine à Kinshasa ont largement commenté sur la signature de la charte de la majorité présidentielle et l'arrêt de travail dans certaines universités de Kinshasa. L'Avenir qui a publié la liste de 154 partis et personnalités politiques indépendantes invitées à signer la charte de la majorité présidentielle constate toutefois que la configuration de cette nouvelle plateforme n'a pas beaucoup changé par rapport à l'ancienne AMP. À l'exception bien sûr du RCD-KML de Moussa Nyamouissi, qui a préféré attendre la tenue du congrès de son parti avant de se prononcer par rapport à son appartenance à la majorité présidentielle. Ce journal s'interroge toutefois sur le devenir de l'UDEMO et du PALU, étant donné que la majorité présidentielle n'entend pas faire de nouvelles alliances avec quiconque si elle peut porter seule Kabila au pouvoir. Africa News qui revient sur ce sujet indique que les ténors de la majorité présidentielle ont par cet acte signé l'acte de décès de l'Alliance pour la majorité présidentielle vieille de 4 ans et accouché en même temps de la majorité présidentielle. Pour le palmarès, les alliés de la majorité présidentielle sont pris au piège de la nouvelle charte car le régime disciplinaire instauré à la majorité présidentielle induit que les partenaires de la plateforme perdent une large part de leur autonomie. Donc, ils sont désormais à la merci du blâme, de la suspension ou de l'exclusion. Sur un autre registre, l'Observateur indique que depuis sa prise de fonction à la tête de la Commission électorale nationale indépendante, le pasteur Daniel Ngoï Mulunda surprend plus d'un Congolais par son approche de travail. C'est ainsi qu'on l'a vu notamment chez les deux poids lourds actuels de l'opposition pour réitérer leur point de vue sur le processus électoral. Terminons cette revue de la presse avec l'arrêt de travail constaté dans certaines institutions universitaires de Kinshasa. À ce sujet, la référence plus rapporte que les professeurs d'université de Kinshasa sont passés à l'acte en exécutant l'arrêt de travail. Ils dénoncent le non-respect des engagements pris par le gouvernement, notamment la non-révision de leur statut particulier et aussi l'amputation d'une partie de leur salaire depuis septembre dernier. Ils conditionnent la reprise de cours par la résolution de tous leurs désidératas. Parlant de cet arrêt de travail, le phare de son côté signale que la Poutine relève la mauvaise foi du gouvernement qui s'est contenté de ne libérer de manière irrégulière que la prime de $500 américains au lieu de respecter le protocole d'accord portant sur le statut des professeurs d'université et le barème salarial des professeurs signé entre les deux parties.
Merci Samuel Kachak. Mon petit commentaire, Joachim Diana, vous êtes directeur de publication du journal L'Avenir, c'est un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. Votre participation par rapport au travail de la presse de cette semaine, qui a fait aussi état cette semaine de la visite du prince Laurent de Belgique à Kinshasa.
Oui, tout à fait. La presse nationale, elle est au fait des événements. Elle a dû, malheureusement, en ce qui concerne le prince belge, elle a dit que j'étais dans l'eau seulement après que la presse belge en ait parlé, parce que moi je me souviens, nous avions un reporter là où le prince était reçu par le ministre de l'Agriculture et tout le monde là-bas a enseigné, mais il était dit que compte tenu de la polémique dans son pays, on ne devait pas en parler.
Et on n'en a pas parlé, encore un problème d'accès à l'information.
Tout à fait, on n'en a pas parlé, et lorsque la presse belge, qui voulait que cette présence soit connue, a commencé à parler, et voilà, la presse congolaise s'est jetée.
Ambroise Mamba, vous êtes journaliste à Congo Web, c'est une télévision qui est née depuis Kinshasa. La presse a aussi évoqué le procès ITB avec la plaidoirie qui a commencé.
Oui, effectivement, la presse sert la population par rapport à son droit d'être informée. Et le plus important, c'est que cette information soit bien traitée et de manière équilibrée. En ce qui concerne la visite à Kinshasa du prince Laurent Charles, je pense que c'est un problème d'accès à l'information sur le plan interne. Et voilà pourquoi on relève souvent les médias internationaux. Vous vous rappelez ce qui s'est passé ce soir avec la RFI, le ministre même lui avait frappé parce que tout simplement, la RFI, quand elle traitait des informations, ça permettait aux médias locaux de pouvoir relayer l'information qui, malheureusement, n'est peut-être pas bonne sur le plan des sources. Et moi, je pense que si on a accès à l'information, la presse va bien faire son travail.
Baba Isaac Kalandi, vous êtes journaliste et analyste indépendant à Mbujimayi et au Kasaï oriental. Quelle est l'information qui a dominé cette semaine dans la ville de Mbujimayi et au Kasaï oriental?
Mbujimayi a vécu des moments assez compliqués avec la publication de la liste des détourneurs et voleurs par la Likoko, et puis la base effectue la commission électorale nationale indépendante à travers les forces de l'opposition. Ensuite, la situation de l'EMP qui vient d'avoir sa charte signée par les membres.
Merci, nous passons à notre premier thème de ce soir. Signature mardi dernier à Kinshasa de l'acte d'engagement de la majorité présidentielle LP en sigle. La signature de la charte de cette nouvelle plateforme a eu lieu mardi au stade de Vélodrome de Kitambo, ici à Kinshasa. La signature continue pour ceux des partis, associations et autres personnalités politiques qui ne l'ont pas encore fait. Mais avec cette invitation, les observateurs se posent la question sur le devenir de la coalition ANP, Palou Idemo, si les deux alliés de l'ANP s'en tiennent aux accords. À la majorité présidentielle, par contre, l'esprit du renouvellement de ces accords n'est pas exclu. Inosa Olenda.
Si la charte de la défunte ANP n'avait pas assez de conditionnalités, la nouvelle veut par exemple que pour être membre du bureau politique de la structure, il faut être responsable d'un parti politique significatif. Et pour faire partie de la conférence des partis politiques membres, il faut que votre parti ait au moins 5 élus, députés ou sénateurs. Avec cette nouvelle donne, faudra-t-il envisager encore l'alliance avec les Palou et l'Udemo? À ce sujet, lui, Koya Diallo, secrétaire exécutif de l'ANP, expédia les affaires courantes.
Sera plus l'ANP. Je crois que s'il s'agira de signer des accords de coalition, bien une option sera levée dans ce sens-là. Ou bien s'il s'agira tout simplement question d'obtenir que les alliés d'aujourd'hui se joignent carrément au mouvement nouvellement identifié, bien ce sera une option à lever. Mais aujourd'hui, ce n'est pas encore une préoccupation.
Même si aujourd'hui, ce n'est pas encore une préoccupation, parce que ce qui n'est pas stipulé explicitement laisse vivre ce qui existe, déclare Koya Diallo, certains ténors de la NP estiment que la possibilité d'alliance ne pourra être envisagée qu'au cas où la nouvelle structure ne réunirait pas un nombre suffisant de députés pour constituer la majorité nécessaire en vue de former le gouvernement.
Joachim Zena, après la signature de la charte de la NP, beaucoup de questions se posent au sujet du sort du Palou et des Udemo. Les nouveaux accords avec les anciens alliés, comme ça je crois qu'il faut les qualifier, ne pourraient être envisagés qu'après les élections.
Je ne pense pas, moi je pense que la meilleure façon ce serait de parler avant les élections. Je souviendrai que en 2006, les alliés sont venus au deuxième tour, parce que l'AMP n'a pas été capable à elle seule de faire élire le chef de l'État Joseph Kabila au premier tour. Donc ils avaient besoin de report de voix au deuxième tour. Cela a nécessité les deux accords avec le Palou d'un côté et l'Udemo de l'autre. Bon, cette fois, il y a la révision constitutionnelle qui a fait qu'il n'y a l'élection présidentielle qu'à un seul tour. Cela ne veut pas dire que Joseph Kabila n'a pas besoin de l'apport de ses alliés-là
pour son élection. D'autant plus que la configuration est même a changé avec de nouveaux venus sur l'espace politique. Je pense que la lutte à la présidence sera aussi acharnée, même s'il n'y a qu'un seul tour, mais il y a lieu de ne pas y aller en ordre dispersé au niveau de la coalition d'aujourd'hui. Mais alors, le problème qui se pose, et il faut aujourd'hui que le Palou prenne langue avec la MP, ou avec le chef de la MP. Et j'ai vu que le jour de la signature, que Ludemont était quand même là présent avec son drapeau, ce qui faisait déjà un signe d'approchement.
Mais personne ne les représentait uniquement.
Non, personne ne le représentait pour signer, et d'autant plus que tous ces partis qui avaient des drapeaux là-bas n'ont pas signé. J'ai vu le drapeau de Ludemont, je me demande comme le parti est aujourd'hui plus ou moins écartelé, je ne sais pas s'il y a une dissidence ou c'est l'instance légale de Ludemont qui a décidé ça. Mais je pense que c'est une chose qui est en discussion entre le responsable de ces deux partis et le chef de l'État qui est l'autorité morale de l'âme.
À mon moment, il faut envisager le nouvel accord avant les élections parce que le concept n'est plus celui des bénéfices.
Effectivement, je soutiens ce que mon ami Diamzi, à mon avis, il fallait même avant la signature de ces nouvel accord, cette charte, notamment la signature d'adhésion à la nouvelle charte, il fallait que le Palou parle, prenne langue avec notamment le chef de l'État qui est l'autorité morale de la majorité présidentielle. Pourquoi ? Parce que, vous savez, en 2006, on a signé l'accord entre l'ANP et le Palou sur base des résultats des élections, l'élection présidentielle. Il ne s'agissait pas d'élections législatives nationales, il s'agissait de la présidentielle de 2006, et qui avait donné 13% au Palou, et Joseph Kabila avait estimé que les 13% pouvaient lui être bénéfiques. Voilà pourquoi on a signé les accords. Et il fallait qu'effectivement, avant la signature de cette nouvelle charte, que le Palou prenne langue pour qu'on définisse et comment l'alliance va devoir se passer, parce qu'il n'y aura qu'une élection présidentielle à un seul tour. Et là, à mon avis, je pense que ça allait également consulter au Palou. Mais ici, il y a une inquiétude parce que si le Palou embarque le bateau de la majorité présidentielle comme ça, sans avoir d'abord témoigné ce que pourrait être son poids politique après les élections, et je pense que ça ne va pas lui être profitable, étant donné que la politique est en dynamique, les électeurs de 2006 ne sont plus ceux de 2011, par exemple, et avec l'entrée dans la danse de Kim Tshisekedi, sûrement, les résultats ne seront pas les mêmes. Et ici, il fallait notamment que l'on puisse un peu éclaircir les choses pour qu'on permette à la majorité présidentielle de pouvoir apporter son candidat à la victoire. Pourquoi je le dis ? Parce que, vous savez, si, à mon avis, ce qui a conduit à cette nouvelle charte, c'est peut-être la mauvaise négociation des accords de 2006. Et on a remarqué peut-être que les accords étaient mal négociés et qu'il fallait envisager une sorte de parti unique, une grande machine électorale pour réunir tous les alliés et pour que ça donne. Mais je pense que l'accord n'est pas envisagé après les élections, il faut l'envisager avant les élections, puisqu'il faut d'abord faire gagner le président de la République avant d'envisager un gouvernement.
Et Baba Isaac Kalonzi, comment vous analysez l'absence de Ludemont et du Palou lors de la signature de cette charte?
Chers confrères, je suis très content de la question, mais il faut avoir une vision de la province, le comportement des ex-Kassaïens vis-à-vis de ce changement opéré au niveau de l'ex-AMP qui devient l'AMP. La position est controversée. Il y a d'une part la grande partie de la majorité locale ici qui disent que rien n'a changé. Il y a bien d'autres qui disent que le président doit avoir travaillé avec une équipe dans l'informel pour affûter les armes et préparer la prochaine fête électorale.
Ça, ce sont les opinions au côté oriental. Hein?
La contribution du Palou, de Ludemont et des autres membres de cette majorité anciennement appelée AMP semble minimisée parce que si Palou ne prend pas part à l'actuelle MP et Ludemont se retire, les gens ne voient pas le danger que peut courir cette famille politique vis-à-vis d'un électorat dans lequel se trouve impliqué fortement l'UDPR. Ça, c'est la première démarche. La deuxième démarche, c'est que tout dépend du résultat auquel le président de la République veut arriver avec sa famille politique dans la bataille électorale qui s'approche et qui pointe à l'horizon. Faut-il maintenir des équipes constituées de partis alimentaires qui n'ont d'autres objectifs que puiser l'argent se promener et mener leur campagne, ou faut-il faire face à une équipe composée de partis qui ont pignon sur rue, qui peuvent bouger la population et même obtenir la majorité au niveau des deux chambres? Alors, si dans la première proposition, le président veut arriver à une majorité écrasante à la prochaine échéance, et qu'il a fait le choix en choisissant les gens qui sont capables de traîner une foule derrière eux, le choix est bien tombé. Mais si c'est débarrassant des partis alimentaires qui n'ont pas la capacité de drainer la foule, mais il faut appeler encore à des formations qui n'ont pas pignon sur rue, il n'aura pas résolu le problème pour lequel le changement actuel est intervenu. En province, ici, les gens pensent que le chef de l'État est candidat à sa propre succession. Dès lors qu'il trouve des défaillances dans son cas, il peut se préparer à chuter les armes, mais en faisant appel à des gens qui ont la capacité de drainer la masse. Parce qu'à l'intérieur, vous n'êtes pas vous tout là-bas à l'intérieur, vous êtes à Kinshasa, et Kinshasa n'est pas le Congo. Donc il faut voir ce qui se passe ici. Est-ce que les partis qui sont aujourd'hui membres de cette plateforme et les personnalités indépendantes qui sont parties de cette plateforme ont-ils le crédit sur la population localement ici? Ont-ils un discours à développer ici? Est-ce que les mêmes raisons qui ont mis en faveur de leur rejet ne sont-ils pas encore valables ici aujourd'hui? Ce sont autant de questions que la population localement se pose et on attend y trouver des remèdes, peut-être quand on aura organisé la conférence des présidents des partis qui ont adhéré.
Merci Joachim Gana. Il est dit dans cette charte que pour adhérer à cette nouvelle plateforme, la majorité présidentielle, il faut être responsable d'un parti significatif.
Oui, tout à fait. Et être parti significatif, ça veut dire qu'un parti qui a des assises, d'abord, il faut être en parti légalement constitué, et un parti qui a des structures, et c'est pas un parti qui a un poste, mais un parti qui a un siège, la FUSCO, et qui a des assises. Mais je trouve un peu de contradiction dans ce sens que la charte est signée avant les élections. Parce qu'il y a des partis qui venaient d'être créés, qui ont signé, et qui n'ont pas encore d'assises. Donc, il faut
avoir des partis qui posent la question sur les mécanismes mis en place pour savoir quel est le parti qui répond à ces critères. Parce que, bon, il y a eu beaucoup de partis qui ont signé, mais comment savoir quel parti répond à ce genre de critères?
Et tout à fait, c'est pour cette raison qu'on ne doit pas se leurrer avant pour dire qu'il y a déjà beaucoup de monde qui est arrivé, il y a des gens arrivés et tout ça, et on peut se passer des alliés comme le Palou, comme les démons et comme ça. Donc je pense que c'est le moment d'y réfléchir. Donc c'est après les élections que l'on va voir s'il est le parti qui est effectivement significatif. Avant ici, on doit prendre toutes les précautions pour qu'on ne soit pas surpris pendant les élections, comme l'a dit notre confrère de Bouzmaï. Une chose est de signer, une chose est d'apporter quelque chose. Donc on ne peut pas s'impressionner par les nombres et estimer que la masse est dite et que les autres peuvent être mis de côté. Je pense que telle n'est pas la logique du chef de l'État qui connaît très bien tout ce monde, et qui connaît très bien aussi ce qu'il y a comme parti, il y a des conseillers et tout ça. Je pense que les choses seront faites de telle manière que je ne puisse pas connaître cette surprise et que les partis significatifs, peut-être, ça sera au moment de participer au gouvernement qu'on va les connaître, mais pour entrer dans la paix avant les élections, ce critère-là n'est pas.
Dans votre journal Le Quotidien d'avenir, vous dites que la configuration de la MP, majorité présidentielle, n'a pas changé par rapport à l'ANP. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Ben, tout à fait, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes qui avaient signé la charte, de l'accord, donc la charte, la première charte de l'ANP, et ce sont les mêmes qui ont signé la MP. Donc les mêmes, on n'a exclu personne. Donc ils sont venus librement signer. Donc tout ce qui a changé, justement, c'est tout simplement que la charte fait un peu de l'ANP. Quelque chose de plus organisé, avec un règlement d'ordre intérieur, avec une discipline plus ou moins assortie. Je crois que c'est tout simplement un cadre. En ce qui concerne les membres, ce sont les mêmes.
Oui, Ambroise Mamba, Cyrien Attinger, comment expliquer le mythisme et cette résistance appliquée par les Palous, évidemment, Cyrien Attinger.
Bon, on peut le comprendre par rapport, par exemple, ce que vous avez dit tout à l'heure, pour être parti membre de la majorité présidentielle, il faut être parti qui a des assises. Et le Palou, son poids politique, on les connaît. L'Udemon, on connaît son apport par rapport aux élections de 2006. Alors, ils ont signé les accords en 2006. Voilà pourquoi ils se sont retrouvés au gouvernement aujourd'hui. Et à mon avis, s'il y a encore des réticences, ils veulent voir clair par rapport à ce qu'on leur réserve. Par rapport à ce qu'ils représentent politiquement. Mais ici, je voudrais aussi répondre à une inquiétude. Si ce sont les mêmes qui ont signé en 2006, ce sont les mêmes qui sont là encore aujourd'hui à la majorité présidentielle, c'est peut-être parce qu'on veut éviter la frustration, puisque le concepteur de la nouvelle charte évite tout simplement la frustration, parce que Tshisekedi est dépendance, Kamere est venu prendre ses distances, ce qui fait que Kabila aura un morceau dur, bien évidemment. Alors si déjà ceux qui sont restés au niveau de la majorité présidentielle ont créé encore des frustrations, ça sera en défaveur du chef de l'État. Voilà pourquoi on a architecte tout le monde. Mais ici, je voudrais demander, est-ce que tous ces signataires, est-ce qu'ils seront capables de pouvoir assumer le bilan de la gestion du pays après 5 ans? Est-ce qu'ils seront capables? Parce que vous voyez, Mboussa Nyamisi, qui est du RCD-KML, n'a pas encore signé, il attend la tenue du congrès de son parti. Mais Mboussa Nyamisi, vous comptez ses déclarations. Chaque fois qu'il est parti à l'Est, il est toujours mécontent de l'action gouvernementale. Et est-ce qu'aujourd'hui, il va intégrer la MP pour encore dire quoi à sa propre base? Et voilà, c'est autre question qu'il faut se poser. Donc, notre confrère Mboussa, il venait de dire tout à l'heure que est-ce que tous ces gens qui ont signé, est-ce qu'ils seront capables de pouvoir tenir un discours auprès de la population? C'est le plus important aujourd'hui pour faire gagner Kabila. Il faut avoir un discours convaincant. Il faut présenter un bilan. Il ne faut pas seulement aller signer parce qu'on sait que lorsqu'on va gagner, on va avoir des postes. Le plus important, c'est d'assumer les bilans à présenter à la population.
Baba Isaac Kalonji, il est dit dans cette carte que pour faire partie de la conférence des partis membres, il faut qu'un parti puisse avoir au moins 5 sièges au Sénat et à l'Assemblée nationale. Et vous ne pensez pas que ça, c'est une façon d'exclure certains partis politiques ou certaines personnalités?
Et si mes confrères, rassurez-vous, c'est une condition qui ne sera jamais respectée, puisque même alors les personnalités reprises sur la liste que je détiens, sur le journal Climat Tempéré, à ma présence, ces listes là-bas présentent les personnalités qui n'ont pas pignon sur rue, qui n'ont pas convaincu et qui ont mandaté leurs membres au niveau du gouvernement musicaux, et dont vous connaissez le bilan. Je me demande, moi, s'ils ne remplissent pas les conditions d'avoir cette équité, et s'ils ne peuvent pas contribuer à la relance de la nouvelle famille politique qu'on appelle majorité présidentielle, nouvelle formule MP, je me demande, moi, ce que cela peut apporter comme solution au problème qui se pose au pays. Parce que, présentement, ils vont peut-être reconduire les mêmes personnes dans l'équipe gouvernementale qui sera formée. Et malheureusement, pour nous, les ceux qui ont été reprochés à cette équipe n'ont jamais été sanctionnés ni punis. Alors, en ce moment, si ce sont les mêmes personnes qui reviennent, si ce sont les mêmes partis politiques qui reviennent, je crois qu'ils ne vont pas faire affaire aux anges du ciel pour venir gouverner le pays. C'est ça notre malheur. Et nous avions attendu que le président frappe, de sorte que ceux qui peuvent venir remplacer les autres là puissent avoir peur. Mais dès lors que c'est là, qui ont mal géré, qui ont mal gouverné, ne sont pas inquiétés. Mais où voulez-vous trouver une solution à notre misère? Où voulez-vous trouver une solution à nos attentes et nos aspirations profondes?
Merci, nous passons à notre deuxième thème de ce soir. Le bureau de la Commission électorale nationale indépendante s'est mis en sigle, consulte depuis le début de la semaine les chefs des partis politiques. Il est question pour la CENI de présenter à ses personnalités les recommandations des travaux de Lubumbashi en rapport avec les chronogrammes et les calendriers électoraux. Le bureau a rencontré Étienne Tshisekedi de l'UDPS, le Premier ministre Adolphe Mouzito, le bureau de l'Assemblée nationale, François Mwamba du MLC et Vital Kamerhe de l'Union pour la Nation Congolaise. Cependant, l'UDPS fait ses observations à la Commission électorale nationale indépendante. Le parti de Étienne Tshisekedi a déposé hier jeudi son mémo sur le calendrier électoral lui proposé par cette institution lundi dernier. La substance du mémo avec Jacques Chabani, secrétaire général de l'UDPS, interrogé par Innocent Olenga.
Il faut retenir dans le document que nous avons déposé au bureau de la CNI que l'UDPS a voulu insister sur le fait qu'elle ne peut pas participer ou cautionner une quelconque violation des dispositions de notre Constitution. Parce que le calendrier qui nous est présenté viole la Constitution par rapport au délai du mandat de la législature actuelle. Et l'UDPS ne peut pas cautionner cela.
Mais qu'est-ce qu'il y a un message qui dit que à l'impossible, nul n'est tenu. Il y a des difficultés que la CNI vous a présentées. Est-ce que vous ne pensez pas arrondir les angles?
La base qu'il faut retenir dans le cas d'espèce, c'est que nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Ils avaient 5 ans pour préparer les élections vers lesquelles nous sommes en train de nous acheminer. Ce n'est pas l'impossible, nul n'est tenu. Il y a eu un manque de volonté politique depuis les premiers mois jusqu'à aujourd'hui.
Ambroise Mamba, d'abord, comment vous analysez l'approche que privilégie la CENI, cette approche qui consiste à consulter les partis politiques qui sont les partenaires de cette institution?
D'abord, je salue la démarche de Ngoï Moulunda parce que, surtout quand il va vers les partis de l'opposition, c'était pour éviter la consultation, il veut rassurer de sa neutralité. C'est vrai, on dit de lui proche du chef de l'État, conseil spirituel du chef de l'État, mais cette fois-ci, quand il va vers l'opposition, il veut rassurer tout le monde de sa neutralité. Mais ici, le plus important, c'est pas seulement aller vers l'opposition, mais c'est, parce qu'il est pas seulement parti vers l'opposition, il a également vu certains partis de la majorité. Mais ici, ce ne sont pas les partis de la majorité qui comptent, ce sont des gens de l'opposition qui ont toujours crié par la tricherie, et ainsi de suite. Mais est-ce que c'est cette démarche qu'attend la population aujourd'hui? Mais le plus important, c'est qu'on le voit sur le terrain, comment ils travaillent, comment ils préparent les élections ces élections soient apaisées. Mais ici, par rapport à la mouture du calendrier électoral qu'il a présenté aux partis des oppositions notamment, sa mouture, j'ai lu, la mouture n'a pas prévu les découplages, même si dans les salons politiques on parle d'un certain découplage qui rentre la présidentielle des législatives. Mais ici, je voudrais un peu savoir, est-ce que c'est dans l'esprit du consensus qu'il va vers l'opposition, étant donné que la mouture qu'il a présentée par rapport au non-découplage de la présidentielle des législatives, la loi électorale n'a pas encore été modifiée, c'est la loi électorale qui va devoir fixer les règles du jeu. Est-ce que Ngoï Moulunda ne va pas se plier sportivement devant la loi électorale pour peut-être présenter un autre calendrier pour cette fois-ci découpler les élections présidentielles et législatives?
Bon, il faut préciser que c'est encore une mouture qui est susceptible d'être modifiée. Hein.
Voilà pourquoi moi je souhaitais même pas qu'il puisse nourrir ses ambitions au niveau de l'opposition. Il devait être laissé que la loi électorale soit modifiée pour que finalement il s'occupe bien d'un calendrier électoral. Puisque là, est-ce qu'il va accepter les revendications de l'opposition, notamment qui est contre cette tendance vers la violation du délai constitutionnel? Est-ce qu'il va l'accepter ou c'est la loi qui va les lui imposer? Voilà pourquoi moi je trouve que c'est pas du tout important d'aller vers l'opposition. Est-ce qu'il a besoin d'un consensus ou il a besoin seulement de travailler parce qu'il a les représentants de l'opposition dans son bureau? Et là je déplore effectivement la position des LIDPS. Est-ce que les LIDPS disent par exemple qu'elle ne veut pas cautionner la violation de la Constitution? Cautionner, c'est avec quelle finalité? Nous n'allons pas cautionner la violation, c'est avec quelle finalité? N'est pas participer aux élections ou participer aux élections? Alors, la position des LIDPS, à mon avis, est ambiguë.
Justine Guélin, le premier couac après déjà avec l'UDPS hein, qui dit qu'elle n'est pas prête à cautionner la violation de la Constitution. Comment vous analysez la réaction de l'UDPS?
Bon, je commencerai par faire une petite précision, c'est que le découplage ou le couplage des élections, ce n'est pas une question de la loi électorale, c'est plutôt une question du calendrier électoral. Même lorsqu'en 2006, on avait mis les élections ensemble, on ne retrouve cela dans aucune loi. Ce n'est pas une question de la loi, mais c'est une question du calendrier, du placement des élections dans le temps et dans l'espace. Donc, ça ne se trouve pas dans la loi électorale. Bon, en ce qui concerne l'UDPS, le conseil m'aurait été étonné. L'UDPS n'a jamais été positif. Maintenant, aujourd'hui, voilà, l'UDPS qui devient défenseur de la Constitution, la même Constitution que l'UDPS avait rejetée totalement. C'était une des causes pour laquelle il n'est pas allé aux élections de 2006. L'UDPS avait rejeté le référendum. Aujourd'hui, voilà, c'est le défenseur de cette Constitution. L'UDPS est toujours dit légaliste. Vous voulez qu'elle cautionne la violation de la Constitution?
Je m'en vais de mon sens.
Et cautionner, qu'est-ce qu'on appelle? À ce moment-là, je pose la question. L'UDPS, c'est une tendance à mettre au défi. Il dit qu'ils avaient tout le temps, et ainsi de suite. Bon, maintenant, j'aimerais, l'UDPS en tant que défenseur de la Constitution, quelle alternative il peut proposer, en dehors d'organiser des élections, même à l'État. Moi, je pense que celui qui respecte la Constitution, celui qui dit la loi, la Constitution nous demande d'organiser les élections. Quel que soit le temps que nous prenons, nous organisons les élections, respectons la Constitution. Vous ne pouvez pas dire que je respecte la Constitution, mais puisque les élections sont en truc, donc sortons de la Constitution, organisons des consultations, une transition paritaire, et revenons à l'égalité de pouvoir. Parce que ça, ce n'est plus un vrai défenseur de la Constitution. Celui qui défend la Constitution me ressemble un peu à quelqu'un qui court le marathon, même s'il se souvient en retard, mais il continue jusqu'à la ligne d'arrivée. Et je pense que c'est ce qui devrait être l'attitude responsable de tous les hommes politiques congolais, de se dire que l'essentiel, le but à atteindre, c'est que nous ayons des élections que nous avons le dirigeant. Mais qu'est-ce qu'on perd en organisant les élections avec un petit retard? Qu'est-ce qu'on gagne en sortant de la Constitution ou en mettant les choses sans dessus parce qu'on n'a pas tenu les élections dans le délai? On doit être responsable, on ne doit pas faire de l'enfantillage à ce niveau-là pour qu'à tout moment, qu'on soit sorti de la Constitution. Donc, pour le moment, il n'y a que des élections. En retard ou à temps, il faut des élections par tous les moyens. Donc, il n'y a pas une autre alternative. L'UDPS, Angelo Boulouki Sabani, nous propose que dans le cas où il n'y a pas d'élection, mais en fait, qu'est-ce qu'on va voir? Si aujourd'hui la CNP se dit, bon, puisqu'on veut les élections, on n'a pas terminé la révision constitutionnelle, allons-y, avec le peu de gens qui se sont enrôlés, allons-y. L'UDPS sera le premier. Donc, on ne doit pas défier tout le temps l'État au moment d'apporter sa contribution, et de toujours défier, de se mettre toujours à l'État.
Baba Isaac Kalangi, l'UDPS ne devait pas se limiter à dénoncer, et devait aussi faire des propositions pour que les élections soient organisées dans les délais. Votre réaction?
Est-ce que, au contraire, je suis très content que le pasteur président de la CNI soit en train de marcher auprès des gros calibres de l'opposition et qu'il visite aussi les amis de la majorité pour être ce qu'il a appelé lui-même dans son exposé, l'église au milieu du village. Je en suis fier. Mais ma préoccupation est la suivante. Les amis qui interviennent m'indisposent de l'ordre qui dit qu'on peut violer allègrement la Constitution en organisant avant ou après les élections, je leur conseille ça. Mais le bas de l'écran, les idées se déposant entre les mains du pasteur président, montre les désiderata d'une portion de la population qui fait partie de l'opposition. Et le pasteur Oumou Mbeké, église au milieu du village, en tiendra sincèrement compte en dépit du fait qu'il y a des amis qui sont pour le boycott de la Constitution. Ça, je m'en plains, c'est mon droit. Et la Constitution me concerne le pouvoir de m'exprimer librement et même de contredire mes amis. Lui a donné une proposition, concrètement, c'est un gars de maîtrise de son parti. Ça n'a rien à voir avec la violation ou la conservation ou le respect de la Constitution, mais mon problème est le suivant. Si le président de la CNI a fait le tour d'horizon des autorités politiques du pays, de l'opposition et de la majorité, c'était pour rendre compte des résolutions de la rencontre de Lubumbashi en rapport avec le calendrier électoral, qui doit être apprécié par tout le monde et chacun doit se donner son avis, et de cette manière, il peut être mis à l'abri d'appartenir à une composante, ce qui est tout à fait normal. J'approuve son geste et je suis pour ce qu'il a fait. Mais quant au contenu du calendrier, c'est-à-dire les séances électorales, le déroulement du vote, tout ça, nous devons absolument tous attendre la sortie de la loi électorale qui va en définir le contour. Et de cette manière-là, nous pouvons tous être fixés de la même manière que quiconque.
Ambroise Mamba, vous pensez que les conditions se sont aujourd'hui réunies pour que les élections se tiennent dans les délais constitutionnels?
Je ne pense pas. Je suis journaliste. Le journaliste l'était par rapport d'abord à la révision du fichier électoral. Je ne pense pas qu'on peut organiser les élections à temps. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on ne peut pas accepter que l'UDPS refuse de cautionner ce qu'elle appelle entièrement cautionner la violation du délai constitutionnel. On ne peut pas non plus reprocher à l'UDPS de s'inquiéter par rapport au fait que le gouvernement n'a pas pu préparer les choses bien avant.
vrai, moi-même, je suis contre ce qui a été fait, que l'institution CENI ne soit pas mise en place bien avant, que les moyens ne soient pas disponibilisés bien avant. Mais au stade actuel, la CENI a été mise en place il n'y a pas longtemps. Au stade actuel, la révision du fichier électoral se déroule à pas de tortue. Et c'est vrai, il n'y a pas moyen, à mon avis, effectivement, qu'on puisse organiser les élections dans le délai. Mon aîné Diane l'a dit, si on disait, par exemple, aujourd'hui, avec le taux d'électeurs qu'on a enrôlé, qu'on a aux élections, c'est la même UDPS qui va sauter dessus pour dire non, écoutez, il y avait moins d'électeurs que prévu, par exemple.
Jacques Ndiana, que faut-il faire maintenant pour apaiser les uns et les autres?
Oui, moi je pense que les gens doivent savoir que le pasteur a pris un risque. Il a fait un saut vers l'inconnu dans ce sens que la loi qui crée la CENI ne l'autorise pas à faire ce geste, mais il a quand même fait un geste qui est louable. Mais ce qu'il faut que les gens comprennent, que la CENI est indépendante. Les autres, en reconnaissant, et c'est aussi la Constitution qui dit que la CENI est indépendante, elle peut nous proposer un calendrier. L'essentiel pour nous, c'est d'être des hommes responsables, de se dire, c'est un peu comme on vous dit, les examens d'État se tiennent à tel moment. On constate que, non, il y a eu du retard, il y a, par exemple, un programme qui n'a pas tenu, on peut prolonger. Et cela, le diplôme qui sera obtenu ne sera pas tout à fait fait. Je pose la question à nous, aujourd'hui, 2 mois avant les élections, il y a guerre à Kinshasa. Qu'est-ce qu'on va faire? On dit, pour ne pas violer la Constitution sous les bombes, allons voter. Non, on doit être responsable.
À votre avis, il faut faire quoi pour apaiser tous les partenaires?
Il y a un vrai problème de moyens. Les moyens ne viennent pas seulement du gouvernement. Et le gouvernement a dit, il y a des partenaires qui ont promis, qui disent qu'ils ne peuvent plus parce à cause de la crise qu'il y a chez eux. Il y en a d'autres qui promettent. Alors, on ne peut pas faire un calendrier électoral sur base de promesses. Et c'est pourquoi, donc, je pense que ce qu'il faut faire maintenant, c'est que le pasteur étant passé par payer, expliquer les difficultés qu'il a. Que tout le monde, il cherche la compréhension. Que tout le monde comprenne que l'essentiel, c'est d'organiser de bonnes élections transparentes et démocratiques, même avec un petit retard.
Merci, nous passons à notre dernier thème de ce soir. Le professeur de certaines institutions universitaires telles que l'UNIQIM, l'UPEN et l'UPASIC observe un arrêt de travail depuis lundi dernier. Il réclame, entre autres, l'adoption par le Parlement de la loi portant statut particulier des professeurs et déplore l'imputation d'une partie de leur salaire depuis septembre 2010. Les professeurs de l'Université de Kinshasa ont décrété un arrêt de travail depuis lundi dernier, une décision prise à l'issue de leur Assemblée générale extraordinaire tenue samedi dernier, assemblée élargie à d'autres associations de professeurs des institutions supérieures de la ville, dont l'UPEN, l'Université pédagogique nationale et l'IFASIC, Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Après chaque 2 semaines, déclare le professeur, ils procéderont à l'évaluation de la situation. Écoutez un extrait de leur déclaration lue par le professeur Charles Lembadou, rapporteur de l'APTOKIN, association des professeurs de l'Université de Kinshasa, au micro des Innocents Olinga.
Malgré les appels lancés la semaine dernière, les professeurs constatent avec amertume le non-respect de certaines clauses du protocole d'accord de la part du gouvernement de la République. D'abord, en ce qui concerne le statut particulier des professeurs d'université, alors que le gouvernement s'était engagé à accélérer le processus de sa promulgation, force de constater une année après, et malgré de ce qui vient de la dernière session de cette législature, le texte n'a été ni traité ni déposé au Parlement. Au sujet de la rémunération mentionnée ensuite, les professeurs continuent de déplorer l'amputation d'une partie de salaire dont ils sont victimes depuis le mois de septembre 2010. Face à cette situation, et malgré les signes de bonne foi qu'ils ont manifestés, les professeurs de l'Université de Chassa décident l'arrêt immédiat de toutes les activités académiques.
Baba Isaac Kalonji, je rappelle que vous êtes journaliste, analyste indépendant à Mbujimayi au Kasaï oriental. Comment se présente la situation aujourd'hui à Mbujimayi? Est-ce que les cours se donnent normalement?
Je crois que mes amis professeurs universitaires de Kasaï oriental ne sont pas encore contaminés par cette attitude des amis professeurs de Kinshasa et je sais que ça va venir. Parce qu'ils ne sont pas dans un autre pays, ils vivent les mêmes conditions et ils traversent les mêmes difficultés. Vous savez que ce n'est pas comme ailleurs, hein. Ici, à peine 4-5 institutions universitaires sont ouvertes, et on donne cours à la va comme je te pousse, et les conditions de vie, les conditions matérielles sont déplorables. Il y a même certains centres où il n'y a pas de bibliothèque. Et avant de parler des conditions sociales et salariales, et il faut voir d'abord dans quel état les formations universitaires n'ont pas d'équipement, ne sont pas dotées du matériel scientifique, mais on se débrouille. Je crois que la gangrène, monsieur Kachichacha, pourra un jour ou à l'autre arriver en Bougimaï, et la situation sera la même parce que l'État congolais est incapable de respecter les clauses d'une convention prise de commun accord avec les formations universitaires. Il est temps que la solution soit trouvée avant que, dans tout le pays, les centres universitaires et les grandes écoles ferment.
Merci. Ambroise Mamba, je rappelle que vous êtes journaliste à Congo Web, c'est une télévision qui émet depuis Kinshasa. Comment vous réagissez à la décision prise par les professeurs de pouvoir observer cet arrêt de travail?
Ils ont apparemment raison. À mon avis, ils ont raison parce qu'ils ont raison. Ils ont raison parce qu'ils ont signé un protocole d'accord avec le gouvernement en février 2010. Et ils ont estimé que le gouvernement n'a pas pu respecter cet accord. Voilà pourquoi ils ont préféré déplier. Mais selon les informations pour possession, parce que notre rédaction est en contact avec les responsables de la PUKIN, l'association de professeurs de l'EMIKIN, le gouvernement aurait déjà débloqué de l'argent pour que les cours reprennent. Et d'ici mardi à mercredi, ils vont devoir lever le mouvement de grève. Mais ce que moi je trouve pas bon, c'est que le gouvernement se fait passer pour un élève qu'il faut tout le temps fouetter par des grèves pour bien s'appliquer à l'école. Est-ce que le gouvernement, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui pour disponibiliser les moyens, pour débloquer les moyens, pour payer les professeurs d'université qui ne pouvaient pas faire hier ou avant-hier pour qu'on évite des grèves pareilles, puisque les grèves perturbent le calendrier académique, notamment, le gouvernement n'a pas besoin de ça. Mais au niveau des l'UPN, par exemple, il y a aussi une grève, les enseignants réclament leur salaire. Je ne sais pas si la grève est le moyen le plus fort qu'entend le gouvernement. C'est les fouets, à mon avis. Moi, j'utilise le terme fouet.
Mais le professeur Masako Mamba, Léonard Masako Mamba, le ministre de l'enseignement supérieur universitaire, dit que le problème d'argent, des salaires, a été résolu. Et par rapport à l'autre revendication qui concerne les statuts particuliers des professeurs, il dit que le texte est déjà à l'Assemblée nationale et la matière inscrite dans le calendrier de cette session. Il ne comprend pas pourquoi est-ce que les professeurs sont allés en grève alors qu'ils savent qu'il y a des avancées.
Le ministre des tutelles, c'est d'abord une autorité politique. En tant qu'autorité politique, il peut dire que le problème de salaire ne s'est posé plus. Moi, je suis journaliste, j'ai un éclaté, je suis entré en contact avec les professeurs. Ils disent eux-mêmes que ça n'a pas été résolu.
Vous allez à l'Assemblée nationale, vous l'avez vérifié. Encore là
par rapport au je ne parle pas du statut spécifique du professeur, je parle du salaire. Donc je dis que par rapport aux faits sur les salaires, ça venait d'être disponibilisé. C'est la semaine prochaine qu'on va devoir lever les mouvements. Et là, c'est pas bon que chaque fois qu'il y a des grèves, on l'a vu encore au niveau de l'école primaire, secondaire, professionnelle, avec les CIECO et les syndicats qui ont observé l'arrêt du travail pour amener le gouvernement à pouvoir résoudre ce problème. Et chaque fois comme ça, c'est pas bon pour le gouvernement. Ça perturbe même le calendrier, le programme académique ou scolaire. Les élèves n'auront pas une bonne qualité de l'enseignement.
Yakim Diana, vous êtes directeur de communication du journal L'Avenir, c'est un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. Comment vous analysez les revendications des professeurs?
D'abord, je ne suis pas de ceux qui dramatisent la grève. La grève, c'est une activité normale dans une démocratie. Lorsque les gens ont des choses à faire entendre et qu'ils l'ont fait d'une certaine manière, ils n'ont pas eu gain de cause, ils utilisent la grève comme moyen pour se faire entendre. C'est normal. Mais j'ai toujours dit, je le répète, je l'ai dit depuis, je crois, la 90, que toute grève qui sort un peu de la revendication sociale, réellement sociale, c'est-à-dire toute action syndicale qui sort du cadre syndical pour mettre un pied, même un tout petit pied, dans la politisation, ça échoue toujours. Parce que là, à ce moment, lorsque celui vers qui on va pour demander une solution, il sent que vous ne cherchez pas la solution, mais vous cherchez à les lier à l'empêcher de travailler. Alors à ce moment-là, lui aussi, il se dit aussi. Alors, je voudrais tout simplement dire que aujourd'hui, peut-être qu'on a disponibilisé, c'est pour dire un peu à mon confrère, qu'on a disponibilisé de l'argent pour le payer aujourd'hui. Si vous avez peut-être à prendre que c'est l'argent qui était prévu pour donner au patron Waimoulouna, c'est sûr, on paye le professeur, et ainsi de suite. Alors, donc, je pense dire qu'avec un budget maigre,
maigre encore que le budget de Chelsea, on n'allait pas demander au gouvernement de faire tout. C'est un budget d'affaires de football, c'est pas le budget pour l'État.
Merci, c'est la fin de cette émission. Jean-Claude Ciala était à la technique et Kenny Couté à la réalisation assistée de Samuel Katnat. Sous la supervision de l'équipe La Mondo, devant ce micro, Guy Maté, merci et bonne suite du programme sur Radio Capital. Thank you.